du 40 euros à 10 630. Le Napoléon, lui, a repris 20 centimes à 61,50. Et à Londres, l'once de métal fin recule de 2 dollars à 376,30. Je vous rappelle que le CAC 40 est en repli, lui, de 0,86%. C'est Antoine Verlat, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui à la veille des journées du patrimoine, consacrées cette année à l'art sacré, le Mont Saint-Michel.
Le Mont Saint-Michel est à l'océan ce que la pyramide de Khéops est au désert. Victor Hugo.
D'histoire. Treize siècles après l'installation de ces 12 premiers moines, le Mont Saint-Michel est aujourd'hui un des lieux les plus fréquentés du monde. Tous les ans, sur les traces des pèlerins du Moyen-Âge, 3 millions de touristes viennent visiter ce qui fut à la fois une abbaye, une forteresse et même, on l'oublie souvent, une prison. Construit entre ciel et terre, perdu au milieu d'une baie immense de 40 000 hectares, le Mont Saint-Michel fascine encore les voyageurs qui garderont toujours le souvenir des trois étages de la merveille, du cloître, des remparts, de la flèche de l'église, mais aussi d'un autre monument, plus profane celui-là, la célèbre omelette de la mère Poulard, un haut lieu de la gastronomie que n'avait sans doute pas prévu l'archange Saint-Michel quand, il y a 1300 ans, il demanda à l'évêque d'Avranches de construire un sanctuaire sur ce qui s'appelait alors le Mont Tombe.
En l'année 708, un saint évêque occupait le siège épiscopal d'Avranches. Aubert était le miroir et l'exemple des jeunes gens de ce temps-là. Empli de dévotion pour Saint-Michel, il guérissait les maladies et libérait les populations des afflictions qui pesaient sur elles. Mais un jour, Aubert apparut fort bouleversé à son chapitre, assemblé en grande hâte sur sa demande.
Mes frères, entendez ce qu'il m'est advenu en ces temps derniers. M'étant mis un soir au lit pour prendre quelque repos, je vis apparaître en songe l'archange Saint-Michel qui s'adressa à moi en ces termes.
Aubert, il te faut édifier un temple sur le mont Tombe, où je serai honoré.
Gérard Denisot, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était la naissance du Mont Saint-Michel, extrait d'une ancienne émission de France Inter, la Tribune de l'Histoire, en 1980. Alors, les journées du patrimoine qui commencent demain ont pour thème cette année l'art sacré. Alors, l'art sacré, bien sûr, le Mont Saint-Michel en est un bel exemple. Il est connu dans le monde entier, mais peu de gens connaissent son histoire. Dans un beau livre, l'histoire visuelle des monuments de France, vous rappelez qu'elle a commencé, donc, il y a 13 siècles, par une apparition, on vient de l'entendre.
Par une apparition, oui, en 708, l'apparition, donc, comme le laissait entendre l'extrait précédent, de l'archange Michel à Aubert, qui était évêque d'Avranches, je dois dire que déjà, à l'époque, le mont Tombe, comme on l'appelait, qui n'a rien de mortuaire en l'occurrence, mais qui désigne une éminence, le mont Tombe,
oui, en latin, ouais.
Voilà, était occupé par des chrétiens, n'est-ce pas, des chrétiens qui s'étaient retirés, et eux-mêmes, ces chrétiens, attestés depuis le 6e siècle, avaient été probablement précédés, nous n'avons que des sources orales, par un site mégalithique.
Comme à Carnac.
Comme à Carnac, un site druidique, dit-on, sans que, évidemment, l'affaire soit attestée, puisque, tout le monde le comprendra, si des traces existent, elles ont disparu depuis très longtemps.
Oui, comme d'ailleurs ont disparu, je crois, les premières constructions, en fait, de ces moines, envoyés par Aubert, et qui ont disparu, parce que ce n'est que 3 siècles après cette apparition de Saint-Michel, Gérard Denisot, que on commence à construire les édifices que nous voyons aujourd'hui, notamment l'abbaye.
Bien sûr, même la date de l'ouverture du chantier de l'église étant de 1023 et l'apparition de l'archange remontant à 708, il y a donc 315 ans qui séparent ce premier état de l'installation de 12 chanoines de l'ouverture du chantier de l'église. L'église romane en 1023. Et cette église romane elle-même est attestée, le chantier est bien connu, bien documenté, pour les bâtiments conventuels, comme presque toujours en pareil cas, on est beaucoup moins documenté. Je vais vous dire que les moines qui s'étaient installés au Mont-Saint-Michel obéissaient tout simplement à la règle bénédictine, c'est-à-dire qu'ils essayaient de trouver un équilibre entre la prière, l'étude et le travail, souvent manuel, et que dans la règle de Saint-Benoît, vous ne trouvez qu'une phrase, et encore très lapidaire, pour parler des bâtiments conventuels, qui ne sont nullement orientés, qui ont juste pour fonction d'être utiles.
Alors ces bâtiments ont été construits sur une île qui est toute petite, je crois qu'elle fait 900 mètres à peine de circonférence, si bien que tout a été édifié en hauteur. Et c'est une, vous insistez là-dessus, c'est vraiment une prouesse architecturale, surtout pour l'époque, et surtout parce qu'on a construit l'essentiel en granit.
Oui, en granit, oui, une prouesse même ahurissante qui continue de confondre les architectes d'aujourd'hui, mais aussi les simples visiteurs comme moi qui n'entendent pas grand-chose à l'art de la construction. C'est époustouflant, il faut bien le dire. Non seulement cet îlot granitique lui-même est extraordinairement escarpé, il fait 900 mètres de pourtour et il culmine à 78 mètres, c'est vous dire à quel point la déclivité est forte. Et tous les bâtiments ont dû donc tenir compte de cette déclivité, notamment, alors la plus exceptionnelle, dont nous allons probablement parler, au XIIIe siècle, c'est-à-dire la merveille. La merveille, je vous rappelle que quand on est situé, c'est très difficile d'y accéder, au bas de la merveille, on voit se dresser devant soi un mur de 50 mètres en granit, ce qui, au regard des techniques de construction de l'époque, est proprement hallucinant.
La merveille qui a été escaladée il y a quelques années, en 1998, par Alexandre Hérault pour France Culture.
Trois marches. C'est tout à fait magique d'arriver ici sur la terrasse de l'Ouest la nuit, évidemment, parce que on découvre le ciel en fait. Dans la journée, ce qui fascine, c'est l'horizon, l'immensité, avec le balai des nuages. Et puis la nuit, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus que les étoiles. Et quand on vit dans le village, les étoiles, on les voit peu. On a toujours les pignons des maisons médiévales. On a toujours cette impression un peu oppressante. Mais là, sur la terrasse, la nuit, il n'y a plus rien. Le ciel est au-dessus de nous et puis brillant. Au milieu des étoiles, la statue de Saint-Michel, l'archange.
Alors la statue de Saint-Michel, Gérard Denisot, est récente. En fait, on oublie, c'est peut-être un des monuments les plus connus de Mont-Saint-Michel, mais date de la fin du 19e, cette statue en or du saint patron du mont. Mais tout le reste ressemble à peu près à ce qui a été construit il y a déjà 1000 ans, hein, pour l'essentiel. Et une abbaye qui avait pour vocation, d'ailleurs c'était le rôle de la merveille, entre autres la merveille c'était 3 étages, qui avait pour vocation d'accueillir d'abord des pèlerins.
Oui. Elle devait accueillir, effectivement, comme toutes les abbayes, c'était l'une de ses prérogatives premières, elle devait accueillir, et la merveille elle-même est divisée en 3 paliers, comme vous venez de le dire, qui rappellent la hiérarchie médiévale. Au bas, c'est-à-dire au cellier et à l'aumônerie, les miséreux, les visiteurs de condition la plus modeste. À l'étage, donc, la salle des chevaliers et conjointe la salle des hôtes de France. Et enfin, au niveau supérieur, alors les 2 vraies merveilles, c'est-à-dire le réfectoire réservé aux clercs, où ils prenaient leur repas en écoutant la lecture sacrée, et le cloître universellement connu, mais qui a l'extraordinaire particularité au Mont-Saint-Michel de n'être pas le centre de distribution de l'abbaye. Du fait, encore une fois,
il est en hauteur.
Il est en hauteur, il est tout en haut.
C'est magnifique, le cloître, effectivement, d'être en haut du cloître, voir toute cette baie immense. C'est absolument splendide, Gérard Denisot. Et alors, le rôle aussi du Mont-Saint-Michel, c'est pas seulement une abbaye, une église, c'est aussi des remparts. En fait, il a eu aussi une vocation pendant la guerre de 100 ans de défense. Il se battait, il fallait se défendre contre les Anglais qui convoitaient ce mont pendant la guerre de 100 ans et qui essayaient de l'attaquer à partir de l'île de Tomblaine, qui est au nord du Mont-Saint-Michel.
Oui, à quelques centaines de mètres. Effectivement, ça a été une forteresse absolument redoutable qui a été souvent assiégée, parfois assaillie, jamais conquise. Il faut dire que la guerre de Cent Ans, qui est mythique, qui est un désastre mythique aussi bien pour le peuple de France que pour le peuple d'Angleterre, reste finalement le seul conflit qui est opposer directement et exclusivement ces deux nations, avec bien sûr le parasitage bourguignon, bien d'autres nations d'ailleurs, mais c'est le seul conflit qui les opposait directement. Et ce conflit, la France a fini par le gagner. Encore que je crois qu'en matière de guerre, il n'y a pas de victoire. Et il n'y a qu'une perdante, c'est la civilisation. Mais elle a fini par le gagner et lorsqu'elle a enfin triomphé, après 130 et quelques années de conflit, le Mont Saint-Michel était tellement bien devenu le symbole de cette victoire que Louis XI, qui régnait sur la France, qui fut le dernier grand roi, si l'on peut dire, du Moyen-Âge, a tenu à se rendre à trois reprises au Mont Saint-Michel en hommage et en gage de fidélité à l'endroit de ce lieu qui avait contribué à bouter l'Anglais hors de France.
Mais c'était aussi l'endroit où se réfugiait la femme de Bertrand du Guesclin, un Tiphaine qui consultait les astres en attendant au Mont Saint-Michel son mari qui était prisonnier du prince noir.
Pour une fois qu'on avait regardé le parchemin de Dame Tiphaine, la journée de Nagera y était bien marquée d'une croix noire. Et elle nous a conduit tout droit en noir prison chez le prince noir. Et Dame Tiphaine qui nous attend dans votre maison du Mont-Saint-Michel.
Mais que regardes-tu sur ces grèves?
Rien. Elles sont vides comme ma vie. Une vie que j'ai passée à l'attendre, à le regretter, à l'attendre encore.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le Mont Saint-Michel.
Et on entend l'ensemble choral du bout du monde, Tuchène, Michael, Mont Saint-Michel. Je cite, de bon matin, suis allé seul à la chapelle Saint-Michel et tout autour de moi, la brume fermait les fenêtres du monde. Alors c'est un bel hommage en breton pour une île normande, Gérard Denisot, elle est dans le département de la Manche. Alors je sais que les bretons la considèrent comme une île bretonne aussi.
Ni bretonne, ni normande, universelle. Le Mont Saint-Michel appartient à tous ceux qui en rêvent, qui s'y rendent, qui le visitent, qui le connaissent par la photographie sur l'écran. Le Mont Saint-Michel est un lieu magique où les gens se rendent pour rencontrer quelque chose qui n'existe pas, qui est ailleurs.
Alors, ils savent tous que le Mont Saint-Michel, c'était une abbaye, c'était une forteresse, mais on sait, ce qu'on sait moins, c'est que c'était aussi une prison. Hein. Dès le 16e siècle, Louis XI, que vous avez cité il y a quelques instants, il avait fait installer ses célèbres cages de fer. On appelait ça la Bastille des je crois.
Oui, tout à fait. Effectivement, le lieu était, il faut bien le dire, absolument idéal, n'est-ce pas, pour enfermer les gens. Il était d'abord de telle nature qu'il devait tuer les prisonniers encombrants en très peu de mois. D'autre part, les possibilités d'évasion étaient réduites au minimum. Il est vrai que ça, c'était la prison médiévale telle qu'on a pu la connaître. Elle n'était pas toujours aussi impitoyable qu'on l'a dit, mais elle était quand même d'une sévérité extrême. En revanche, elle est redevenue prison après, au XIXe siècle, de 1793 à 1863, je je crois, une prison aménagée, il faut le dire, et elle a très bien rempli son office d'illustres prisonniers politiques, notamment ayant été enfermés, Blanqui, Barbès, dans des conditions carcérales très dures.
Une prison pour tous les régimes, hein, et qui a été fermée, je crois, vous le dites, en 1863, époque à laquelle le Mont-Saint-Michel était déjà visité depuis quelques années par de nouveaux pèlerins, quelques touristes célèbres, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, au XIXe siècle, Mont-Saint-Michel est redécouvert notamment par les romantiques, hein, toujours à l'affût de sensations fortes, nature sauvage, architecture gothique et noir cachot, là, ils sont servis. Hein. Alors, l'architecte Viollet-le-Duc, réputé pour ses restaurations de monuments, pas toujours réussies, mais bon, il se rend en mai 1835 en pleine tempête. Malgré cela, dit-il, vive le Mont-Saint-Michel. Rien n'est plus beau, rien n'est plus sauvage, rien n'est plus grandiose, rien n'est plus triste. Ces tours de granit frappées par la mer, le vent qui le soir mugit dans les grands escaliers du château, le battement des fenêtres livrées à la tempête. Alors Victor Hugo, lors de sa visite en 1836, lui aussi bien sûr est saisi par la beauté des lieux, mais le fait que le Mont-Saint-Michel soit encore à l'époque une prison le met assez mal à l'aise. Autour de nous, dit-il, à perte de vue, l'espace infini, la mer, la terre, les nuages, l'air, la liberté, les oiseaux. Et puis, tout à coup, là, dans une crête de vieux mur, à travers une fenêtre grillée, la pâle figure d'un prisonnier. Jamais, dit-il, je n'ai senti plus vivement qu'ici les cruelles antithèses que l'homme fait avec la nature. Alors, Victor Hugo est déçu aussi de voir sur le clocher d'abbaye, non pas l'archange Saint-Michel, hein, qui sera installé un peu plus tard, mais un vulgaire télégraphe. Alors Théophile Gautier, lui, n'a pas ses états d'âme. Il adore retrouver au Mont-Saint-Michel l'ambiance des romans noirs anglais. « Vous montez, vous descendez, écrit-il. Vous suivez des couloirs obscurs. Le plancher sonne creux sous vos pieds. Vous êtes au-dessus du puits des oubliettes, ou plutôt du charnier dans lequel se déversait le trop-plein de l'étroit cimetière. Hein. » Il a une imagination débordante, Théophile Gautier. Fascination aussi de Maupassant pour le Mont-Saint-Michel, son abbaye et ses gargouilles. J'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, écrit Maupassant dans le Horla. J'entrais dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, qui lancent dans le ciel leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques. Quand je fus au sommet, je dis au moine qui m'accompagnait, « Mon père, comme vous devez être bien ici !» Il me répondit, « Il y a beaucoup de vent, monsieur !» En revanche, il y a un écrivain du XIXe qui n'est pas du tout sensible au charme du Mont-Saint-Michel, c'est Stendhal, qui l'aperçoit de loin, hein, depuis la côte, mais non, définitivement, il préfère les paysages italiens. « Le Mont-Saint-Michel, écrit Stendhal, m'a paru si petit, si mesquin, que j'ai renoncé à l'idée d'y aller. »
C'est curieux, hein, cette réflexion de Stendhal. Peut-être parce qu'il n'est pas arrivé jusque dans l'île, d'après ce qu'on vient d'entendre.
Stendhal est un homme curieux, de toute façon, y compris dans ses voyages italiens. Lui qui aime passionnément l'Italie, l'aime parfois pour des raisons étranges.
Mmh. En tout cas, Stendhal n'était pas enthousiaste, on vient de l'entendre, contrairement à Georges Pompidou, à l'époque Premier ministre, et qui, 150 ans après Stendhal, venait au Mont-Saint-Michel pour assister au millénaire de l'abbaye, France Inter, le 10 septembre 1965.
Un soleil éclatant, des milliers de véhicules garés sur les sables du plus grand parking du monde, des dizaines de milliers de pèlerins, touristes français et britanniques, venus assister à ce millénaire. Dans les rues et sur les remparts, c'est la cohue. Et M. Pompidou, souriant, invite lui-même les journalistes à circuler. Le Mont reçoit chaque année autant de visiteurs que la Tour Eiffel ou le Château de Versailles. Après 175 ans de silence, la psalmodie des moines de Saint-Benoît a retenti à nouveau sous les voûtes gothiques. Sur le parvis de cet éternel monument que Victor Hugo a qualifié jadis de Khéops de l'Occident, c'est Mgr Martin, primat de Normandie, qui accueille le Premier ministre.
Nous sommes en un des lieux du monde qui témoigne avec le plus d'éclat du génie humain, de la foi catholique, de la continuité française. Gloire de l'Église et merveille de l'Occident, le Mont-Saint-Michel est aussi un symbole et une synthèse de notre culture, de notre spiritualité, de notre histoire nationale.
Une réflexion sur ces mots de Georges Pompidou pour le millénaire du Mont-Saint-Michel.
Oui, oh ben, Georges Pompidou était un homme de très grande culture, personne ne le lui contestera. Cela étant, je ne pense pas que le Mont-Saint-Michel soit un objet de culture. Il dépasse complètement toutes les catégories génériques en matière de culture, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui est sous-tendu par une idée qui dépasse l'homme, comme d'ailleurs, on voit que tous les monuments de l'histoire ont ont été sous-tendus par une idée qui dépasse l'homme, du mégalithe jusqu'à aujourd'hui.
Entre Georges Pompidou au XXe siècle et Victor Hugo un siècle plus tôt, Gérard Denisot, il y avait beaucoup de choses, on l'a entendu dans le reportage, que beaucoup de touristes venaient, et ce tourisme, il vient grâce à tout ce qui a été fait au XIXe et au XXe siècle pour les accueillir. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, ne serait-ce que la digue par exemple, qui n'ont été construites qu'assez tard.
Oui, alors il y a une date décisive, 1874. En 1874, le Mont-Saint-Michel est classé monument historique. À partir de là, des travaux de restauration vont s'engager. J'en profite pour rappeler que c'est l'époque où Victor Hugo a milité aussi pour cette restauration. Le grand Victor Hugo, dont nous venons de voir qu'une seule figure de prisonnier avait suivi à ruiner son plaisir, ce qui nous permet à nouveau de saluer son génie humaniste. Et nous vérifierons au passage que Théophile Gautier, grand écrivain mais immonde personnage, n'avait pas les mêmes scrupules. Alors, on a donc construit la digue vers 77-79 de façon à donner un accès plus libre aux personnes qui se rendaient sur place. Mais c'est seulement avec le développement du réseau ferré au début du XXe siècle qu'on a vu les touristes, les premiers arrivés.
Le tramway, enfin, il y avait un tramway qui arrivait même, qui était sur la digue et qui arrivait jusqu'au pied du mont.
Ah, et jusqu'au pied du mont, absolument, qui déposait des gens. Alors, il faut dire qu'en 1910, on a déjà 100 000 visiteurs. C'est très important, mais la course sera exponentielle. Vous savez qu'aujourd'hui, on a 2,5 millions de visiteurs par an, ce qui représente le chiffre effarant de 7 000 personnes par jour qui viennent voir le Mont Saint-Michel. On peut dire qu'il y a une multitude permanente, mais cette multitude ne vient pas là de façon neutre, elle vient chercher quelque chose de grand, quelque chose qui la dépasse, qui relève de l'intuition.
Mais pas toujours, Gérard Denisot, pas nécessairement les monuments qui sont offerts à la visite donc du Mont-Saint-Michel.
La visite de Mont-Saint-Michel, il est encore possible de faire le tour, c'est là, mais personne ne veut le visiter. Le musée, le spectacle, on peut encore, maritime, arcoscope, visite historique. Les personnes qui veulent faire le tour, la visite s'organise à
l'intérieur. Les gens connaissent beaucoup plus la mer Poulard, je pense, que l'abbaye. Le Mont-Saint-Michel, la mer Poulard. Parce qu'il y avait, quand on arrive, quand on est enfant, les batteurs, ça, c'est quelque chose de magique pour un enfant. Ce tempo, toute cette ambiance qu'il y a à l'entrée, les gens...
Ah, les batteurs, vous voulez dire
les hommes laitiers.
Les hommes laitiers. Michel. Et une motte de beurre, être chef cuisinier chez la mère Poulard, c'est une vocation.
Oui, si on peut dire.
C'est pas vous non plus qui allez livrer le secret de l'omelette.
Et non.
Vraiment?
Non, je ne peux pas.
Alors l'omelette de la mère Poulard, la façon dont on la prépare, on l'entend, c'est une véritable samba, c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces touristes qui viennent et qui vont, dit-on, plus souvent visiter la mère Poulard que l'abbaye? Je ne crois pas d'ailleurs.
Écoutez, je ne sais pas s'ils y vont plus pour la mère Poulard que pour l'abbaye. Je sais qu'ils n'iraient pas avec le même état d'esprit si la mère Poulard était en plein cœur du 5e arrondissement. En fait, il y a une osmose, et c'est l'occasion de rappeler que le Mont-Saint-Michel n'est pas une abbaye stricto sensu, c'est une abbaye pour une part seulement des bâtiments qu'elle gouverne, mais il y a un village du Mont-Saint-Michel.
Il y a très peu d'habitants aussi.
Il y a très peu d'habitants, oui, absolument. J'ai su le chiffre, je l'ai oublié.
C'est 87 ou 100.
C'était moins d'une centaine, je me rappelle quand je l'avais su. Mais ce qui permet d'ailleurs d'avoir du Mont-Saint-Michel, quand on se donne la peine de ne pas suivre seulement le grand degré, l'escalier abbatial, ce qui permet d'avoir des vues saisissantes, pour peu qu'on fasse un peu le tour, on tombe sur des petites habitations privées qui sont tout à fait charmantes. Enfin, charmantes, je ne sais pas si le mot bien choisi, elles sont assez rudes, hein, également taillées dans le granit, mais elles offrent des vues tout à fait sur le grand massif qui domine l'ensemble. Et je veux dire qu'aujourd'hui, on peut être un tout petit peu gêné par le fait qu'il y a une prolifération de magasins. C'est vrai, vous savez bien, on vend, on fait un peu de marché de temps, de souvenirs. Moi, ça ne me gêne pas du tout. C'est une animation, je l'ai observée, elle est souvent familiale, gaie, bon enfant. Et mon Dieu, on dirait presque que les gens redeviennent polis quand ils rentrent sur le territoire du Mont-Saint-Michel.
Puis c'est vraiment un morceau de Moyen-Âge au XXe siècle. Le Mont-Saint-Michel n'a pas beaucoup changé. En revanche, l'environnement, le site qui est absolument magnifique, la baie, elle a été transformée, elle a changé au cours des siècles, et en ce moment on est en train de préparer un projet pharaonique pour pouvoir désensabler ce mont qui ne reçoit plus que très rarement l'eau à grande marée.
Bien entendu, parce que justement, vous le soulignez, le Mont Saint-Michel n'a pas changé. Pourquoi n'a-t-il pas changé? Parce que c'est un îlot qui gouverne simplement sa petite terre, son minuscule territoire. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un degré d'ensablement de la baie qui est presque dramatique. Le Mont Saint-Michel, maintenant, peut être gagné à pied sec et on peut imaginer qu'il sera bientôt totalement envasé. Donc, un immense programme a été mis au point, un programme de désensablage de la baie qui effectivement en termes de budget sera considérable, colossal, mais de ce point de vue là je veux dire que on ne doit rien négliger, peut-être à nous pas insister sur le fait que vraiment le Mont Saint-Michel est un des archétypes de la destination touristique dans ce cas-là de plus grand, de plus noble chez l'homme. On va chercher quelque chose au Mont-Saint-Michel plus qu'en n'importe quel autre lieu. Et donc, il est tout à fait urgent de le remettre en l'état qui était le sien. Maintenant, je vais vous dire, vous l'avez esquissé tout à l'heure d'un mot, la silhouette actuelle du Mont-Saint-Michel n'est pas celle que connaissaient les gens du XVIIIe siècle. Beaucoup de choses ont été rebâties, la flèche a été remontée, la statue installée, etc.
Merci Gérard Denisot. Pour en savoir plus sur le Mont-Saint-Michel, je recommande bien sûr la lecture de votre livre « Histoire visuelle des monuments de France », un très beau livre, magnifiquement illustré, avec de très belles photos, publié chez Larousse. Vous êtes également l'auteur d'un roman, « La mutilation », publié chez Éclat d'encre, ainsi que de « Musique et art », un livre publié chez Champion. À lire également « Entre ciel et mer, le Mont-Saint-Michel » de Jean-Paul Brighelli, qui a été publié dans la collection « Découverte » chez Gallimard. Vous avez pu entendre un extrait du film « Du Guesclin » de Bertrand de la Tour avec Fernand Gravé dans le rôle de Du Guesclin et Noël Roquevert dans celui de son écuyer, ainsi qu'un extrait de « Changement de décor », une émission d'Alexandre Hérault diffusée sur France Culture le 1er juin 1998. Enfin, je rappelle que les journées du patrimoine qui commencent demain et qui se poursuivront après-demain et dont France Inter est partenaire ont pour thème justement cette année le patrimoine spirituel. France 5, à cette occasion, diffuse plusieurs documentaires et notamment une journée dans la vie de la Tour Eiffel, diffusée samedi 20 septembre à 0h55 et dimanche 21 à 15h. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements, ils étaient nombreux, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Julien Dumont, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, Sandra Escamez et Caroline Chausset, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Le programme de la semaine prochaine, lundi, une pratique sinistre de l'époque de la France dans les années 1940, la délation sous l'occupation. Mardi, les origines de l'école depuis l'Antiquité jusqu'à celui qui l'aurait inventé, Charlemagne. Mercredi, le déclenchement de la Première Guerre mondiale avec Max Gallo. Jeudi, le cinéma et l'histoire avec un historien qui est aussi un grand cinéphile, Marc Ferraud. Et enfin, vendredi, les fantômes. Bonne fin.